www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Alors, nous sommes le dimanche 28 mars. Bonjour, Denis Ponte.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes ravis de t'accueillir et nous allons parler de Homo Artifact. C'est un projet que tu pilotes, que tu conduis et qui est composite et dont on va parler maintenant. Une exposition a déjà cours, elle a commencé le 23 mars et elle se tient jusqu'au 30 avril au Bain des Paquis, ici à Genève. Il y a eu une collaboration avec le festival Histoire et Cité et notamment une lecture qui a eu lieu ce samedi 27 mars, mais qui est toujours disponible en ligne. Tu nous diras comment est-ce qu'on peut la trouver. Cette lecture, elle est le fait d'une collaboration avec notamment Philippe Macasdar. Peut-être voudras-tu nous en dire un mot plus tard. Philippe Macasdar, que l'on a reçu également à la radio. Le projet, je disais que c'était un projet composite parce qu'il se compose d'un livre, d'un DVD, donc d'un film, c'est-à-dire que tu es donc passé derrière la caméra, qui sont disponibles à la vente. Et donc, on va tout de suite citer. Donc, c'est Homo Artifacts. Et le contact, c'est contact@homo-artifacts.eu. Alors, moi, je m'arrête là pour cette petite présentation et je cède immédiatement la parole à Pierre.
Hello, Denis. Bah, merci de nous donner un peu de ton temps. Ce qu'on te propose, c'est de faire ça peut-être en deux parties. Une première partie où on parle de toi, de ta passion, de ton métier. Puis ensuite, on glissera vers Homo Artifacts et les témoignages de tous ces migrants si émouvants, si poignants. Donc, commençons peut-être par la photo, par toi. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour te présenter, pour dire quel a été ton parcours?
Oui, donc voilà. Actuellement, je suis photographe professionnel depuis pas mal d'années. J'ai un parcours un peu atypique en ayant eu la manie de faire les choses un peu à l'envers, mais très tôt j'ai eu la passion de la photo et la découverte du laboratoire noir-blanc m'a vraiment poussé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que habitant Mérin et on a comme à peu près dans toutes les communes un centre des loisirs. J'avais réussi à avoir la confiance du centre et je pouvais disposer la nuit de leur laboratoire. Et du coup, ben voilà, je me suis lancé dans les tirages, dans la recherche de développement de films, papier, etc. Et voilà, ma passion est née. J'ai arrêté les études et j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise pour faire une formation de l'héliographie, photolitho. Et au bout de 2 ans, j'ai fini par gérer tout le département couleur de la boîte. Et là, j'ai décidé de partir, de me lancer un peu par mes propres ailes. Et là, j'ai passablement voyagé en Amérique latine. J'ai pas mal de photos. J'ai réalisé mes premières expos. Et puis, à un moment donné, début de la vingtaine, j'avais envie de me perfectionner. Et du coup, j'ai eu l'occasion de travailler, d'être apprenti photographe chez un très bon photographe que je salue, Olivier Cura. Et là, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire l'école de Vevey. Mais bien entendu, comme j'avais déjà un bagage, pour moi, c'était exclu de faire 4 ans d'études. Donc, j'ai réussi à faire le forcing pour faire ma formation en 1 an et demi. Et voilà. Et je n'ai pas été très bien accueilli dans l'école du fait que je faisais une voie courte. Mais bon, ça s'est très, très bien passé. J'ai fini premier. Et puis après, je me suis lancé. Je me suis mis à mon compte. J'ai travaillé pour pas mal d'ONG. Je suis parti assez longtemps en Amérique latine. Travaillé pour Terre des Hommes, Genève. Et puis une coopérative de café. Enfin, bref, j'ai fait toutes sortes de travaux. Beaucoup de voyages. Beaucoup d'expositions. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, pour... Parce que je fais toujours attention à ne pas que le commercial ne prenne pas le dessus par rapport à ma passion. Et là, j'ai l'occasion d'enseigner à l'université pour les activités culturelles et pour certaines facs. Et du coup, ça me donne un équilibre entre mes boulots, mon travail personnel, qui est très important, et puis le travail alimentaire.
Bon, moi, je te connais depuis longtemps comme personne déjà, mais aussi comme photographe. je connais un peu tes passions, tes thèmes, mais est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur les thèmes qui te sont chers et peut-être les technologies que tu aimes employer? Tu as parlé du noir et blanc. Je sais que tu travailles beaucoup en noir et blanc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Et puis, corollaire de cette question, comment tu te considères vis-à-vis de la photographie? Est-ce que tu te considères comme un photographe engagé? Est-ce que ta photo te permet de faire passer des messages?
Oui, alors ma passion, bien entendu, c'est le noir et blanc. Et le noir et blanc reste même avec le numérique. D'ailleurs, l'achat du dernier appareil, c'était l'hésitation. Est-ce que acheter un appareil numérique noir-blanc ou couleur? J'ai opté pour la couleur, mais c'est une question pratique dans la gestion du noir et blanc, pas pour faire de la couleur.
Il y a des numériques noir-blanc?
Oui, ça existe.
Qui font que du noir-blanc?
Exactement, ça existe.
D'accord, ok.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le noir et blanc, justement, le propre du noir et blanc, c'est de transformer la couleur en nuances de gris. Et ça demande d'être filtré. Et le fait de travailler avec une image à la base qui est en couleur nous donne cette liberté de pouvoir gérer les filtres en post-production et non pas à la prise de vue, ce qui est un grand avantage. Et c'est pour ça que j'ai opté pour une caméra en couleur. Le labo noir-blanc, j'en fais un petit peu, j'en fais un peu moins parce qu'il y a aussi disparition de certains films. J'aime beaucoup travailler à la chambre technique, donc c'est du grand format, 4-5 inches, 10-12 centimètres. Il y avait un film extraordinaire qui était du Polaroid négatif, qui était vraiment l'un des meilleurs films qui existait sur le marché. Malheureusement, il n'y en a plus, je l'ai fait durer presque 10 ans le plaisir. On parle aujourd'hui peut-être que ça va revenir parce que des privés ont relancé le Polaroid amateur, entre guillemets. Et du coup, ils sont en train de parler de reproduire le Polaroid professionnel. Donc, on verra. Ce serait génial. Voilà. Et puis, autrement, oui, il y a un engagement. Le mot engagé, j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il est très fort. Il va peut-être au-delà de mes pensées, mais oui, en tout cas, un échange. Pour moi, l'humain est très important. Il y a toujours un contact avec les gens et un partage. Pour moi, c'est important. S'il n'y a pas de partage, c'est difficile d'aller au-delà, même dans l'acte photographique. Et surtout, ben voilà, il y a un message, bien sûr. Il y a des choses qui me touchent et que j'ai envie de faire réagir les gens, mais j'ai pas d'utopie. Ce qui est bien, c'est de pouvoir passer un message, donner une réflexion, de pouvoir ouvrir un débat, une discussion. Et de là, on peut peut-être avancer, on peut avoir l'espoir d'avancer. Et c'est pourquoi ces dernières années, quasiment, depuis déjà pas mal d'années, depuis presque 20 ans, j'aime bien, quand je réalise une exposition, un livre ou autre, c'est d'associer plein de gens, d'autres artistes, que ce soit des artistes, que ce soit des choses plus terre-à-terre, des gens qui sont investis dans un thème, et de pouvoir organiser des débats, des soirées littéraires, etc., qui permettent d'ouvrir un large public, de pas avoir simplement des passionnés de photographie ou des gens qui sont acquis à une cause, mais vraiment d'essayer d'ouvrir le maximum. Et j'ai vu que ça marche, ça fonctionne bien quand on ouvre à tous les horizons, on arrive à avoir vraiment un public large, et puis de là, amener une réflexion, et la réflexion est que positive.
À l'heure des réseaux sociaux où tout le monde est photographe dans un appareil photo dans sa poche et se croit photographe, comment tu considères ta passion et ton métier vis-à-vis de ça? Est-ce que...
Ouais, moi ça me dérange pas spécialement. Hein. Déjà dans mes cours, c'est des choses que je dis à mes étudiants. Moi ça me dérange pas. L'important c'est déjà quand on fait une photographie, c'est la première valeur de cette photographie, c'est ce qu'elle nous apporte à nous-mêmes, à celui qui a fait la photographie. Et peu importe d'être professionnel ou pas, on a tous quelque chose à dire à un moment donné. Donc, et de le partager, c'est pas un souci. Ce qui m'attriste peut-être un peu plus, c'est que cette surconsommation d'images, les médias sociaux, maintenant, c'est devenu un passage obligatoire. Un site internet ne pourra faire vivre certaines choses, mais n'aura plus l'impact. Par exemple, moi, dans les années 90, dès l'avènement de l'internet, j'ai tout de suite eu mon propre site internet. qui est passé à la télévision dans une émission, qui est passé, qui a fait des pages entières dans des magazines. Aujourd'hui, je défie quiconque de sortir un site web et d'avoir une visibilité pareille, quoi. Ça, maintenant, on est noyé dans des milliards de pages et toute l'information se passe par les médias sociaux. Ça, j'ai un peu de peine. J'existe à travers parce que il faut pouvoir communiquer. C'est la base. Mais c'est quelque chose que je suis plus très en accord. En plus, moi, je vois aussi qu'il y a un changement. Il y a un changement aussi sociétal où les gens aiment mieux consommer du numérique que du papier. Moi, je suis un amoureux du papier. J'aime pouvoir produire des livres. Et pour l'anecdote, par exemple, on avait créé un petit espace bibliothèque pour un cours que je donnais pour les élèves, pour qu'ils puissent voir les livres, parce que les livres photos, souvent, ils sont éphémères, ils sortent. On les acquiert, après ils existent plus, bon, les cours sont en bibliothèque, ou soit ils existent carrément plus. Et j'avais fait un espace avec vraiment des livres importants, des beaux travaux. Bah, il y a peut-être eu deux personnes qui sont venues regarder les livres, une fois. Par contre, tout le monde allait voir sur Internet, tapait le nom du livre, et puis les photos sont, le travail n'est plus respecté, parce que c'est pas dans l'ordre. Il y a des images qui se mélangent, même des images qui viennent d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et du coup, pour mes élèves, on va se fermer. Mais j'ai numérisé les livres pour les obliger à voir le livre dans son état original, et comme le créateur l'a voulu. Et ça, c'est primordial.
Oui, c'est vrai que maintenant on est submergé d'images de toutes sortes tout le temps et à tout moment. Maintenant, il y a des grandes figures de la photographie, il y a des photos célèbres. Est-ce que tu penses qu'on peut continuer à changer le monde avec une photo?
Ben oui, je crois que de toute façon, historiquement parlant, ça le fait. Hein, les photos iconiques, il y en aura toujours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des fois, c'est de la manipulation. Hein, il y en a eu un qui nous a appris ce que c'était les fake news. Et maintenant, la photo, elle peut être aussi utilisée à contresens. Mais voilà, en tout cas, les images, elles restent. Hein. On peut, par exemple, quelque chose d'assez relativement récent, mais le petit enfant qui est décédé, les migrants qui voulaient traverser de la Turquie à la Grèce, c'est une photo qui est devenue iconique, qui a fait parler d'elle. Après, il y a aussi une autre image qu'on avait intitulé faussement La fille et le vautour, où on voit un petit garçon d'une maigreur extrême avec un vautour qui le regarde à quelques mètres. En fin de compte, toute l'histoire qui a été racontée était entièrement fausse. C'était pas une fille, c'était un garçon. Il était déjà dans un camp. Il n'était pas ni il était mal en point, oui, mais il était pris en charge. Et ça a fait tellement de tort au photographe qu'il a fini par se suicider. Et l'enfant qui avait été annoncé mort, il est mort 14 ans plus tard. Donc c'est pour dire que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la photographie, elle devient iconique, et puis en même temps, le message peut être tordu et donner un autre sens. Mais voilà, mais ça changera pas. Il y aura toujours.
Alors, moi, j'avais une question qui était la suivante. Tu viens de parler justement de photos et de photos engagées, même si le terme ne te satisfait pas. Peut-on parler de photojournalisme dans le travail que tu fais? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des figures tutélaires desquelles tu revendiques un héritage ou en tout cas un apparentement? Je pense évidemment à ces grands noms tels que Capa, Cartier-Bresson, Salgado, etc.
Oui, ben m'inspirer des autres. Oui, le photographe qui m'a le plus inspiré, c'est Depardon.
Ah, oui.
Entre autres avec San Clemente, son reportage et son film documentaire qu'il a fait. Voilà, j'ai une bibliothèque qui est riche en livres photos. Mais je suis ouvert vraiment à tous les travaux. Je suis pas éclectique à ce niveau-là. Mais c'est clair que au début, on s'imprègne beaucoup. Ça, c'est sûr.
Et puis, deuxième question rapidement, la photo, c'est effectivement un média muet d'une certaine manière, en tout cas il n'oralise pas. Alors, comment s'est produit, comment s'est passée la rencontre? Parce qu'on l'a dit, hein, le projet Homo Artifex est un projet composite, hein, donc avec l'expo, le film également, et puis le livre. Comment s'est passée cette rencontre avec Philippe Macasdar, homme de théâtre engagé? Et comment est-ce que ça s'est passé? Parce que je crois que c'était pas le seul, plusieurs collaborateurs étaient là pour faire les lectures. Voilà, comment as-tu eu cette idée-là et comment ça s'est passé?
Bon, ça, c'était un peu un chemin un peu naturel dans le développement de mon projet. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ouvrir mes projets à différents horizons de façon à justement élargir la visibilité et le public. Et Philippe Macasdar, il y a 5 ans, quand il était directeur de Saint-Gervais, m'a fait confiance après quelques hésitations pour présenter un travail et un livre que j'avais fait à l'époque qui s'appelait Face à elle, qui était un travail de portrait de femmes musulmanes de Genève. Et ce travail avait créé une peur, mais abyssale, ici, et personne n'en voulait. Et juste avant la fin de l'exposition, ça c'est pour l'anecdote, il y a eu les attentats du Bataclan, l'expo devait voyager partout en Europe, et tout a été annulé. Les livres ont été rapatriés de France, etc. Plus personne n'en voulait. Et ça, moi, j'étais très reconnaissant parce que Philippe Macasdar s'est très vite engagé et a accepté de prendre ce risque et de montrer ce travail qui avait rien de provocant, qui avait rien de dérangeant, etc. Bien au contraire. Et du coup, il y a une amitié qui s'est créée. On a eu l'occasion de travailler après par la suite sur d'autres projets, et pour moi ça devenait, c'était presque un devoir pour moi de lui proposer d'écrire la préface du livre.
Très bien, je te remercie beaucoup. Une toute dernière question, très rapidement. On a cité tout à l'heure quelques noms comme ça célèbres. Il y a également des agences qui sont devenues célèbres. Je pense à l'agence Magnum. On en a une ici à Genève, Interphoto. Est-ce que tu as pu collaborer avec elle, avec cette agence-là? Et selon toi, est-ce important pour un photographe d'être au contact de ses pairs?
Alors, je pense que oui, à Genève d'autant plus. Genève, c'est d'autant plus important. C'est dans la mentalité genevoise. Moi, comme j'ai dit, j'ai toujours aimé faire les choses un peu à l'envers. J'ai fricoté un peu avec la presse et je m'en suis vite détaché parce que j'avais l'impression d'être dépossédé de mon travail entre le discours que je voulais faire passer et le discours qui est donné dans les médias. Et du coup, bien sûr que je publie parfois dans la presse, mais je m'en suis dégagé. C'est vraiment, c'est plus à travers mes projets qu'un travail journalistique. Je sais qu'une bonne manière d'avancer dans le domaine, ce serait de monter sa propre agence avec d'autres gens. Mais ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai préféré me libérer, justement en ayant comme le fait de pouvoir donner des cours de photos qui me permet justement d'avoir une liberté dans mon travail. Je ne supporte pas d'avoir une censure dans le travail. Donc, du coup, avec la presse, là, j'ai plus de paix.
Donc, tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a particulièrement touché? Puis, est-ce que ton rôle de photographe a influencé... Enfin, comment est-ce que ton rôle de photographe a influencé ton interaction avec les gens sur place?
Ben, l'interaction, ben forcément, parce que la photo est ma passion, donc mon appareil est présent avec moi tous les jours, donc même en voyage. Et si je pars en voyage, je pars pas en vacances, je pars avec soit une idée de projet ou de collaboration avec d'autres gens. C'est d'autant plus intéressant pour moi parce que déjà, si on s'investit dans un projet, on va gagner du temps parce qu'on va rencontrer des gens qui vont nous ouvrir des portes. Et si on part seul, on va mettre 1 mois, 2 mois avant de pouvoir se familiariser avec le terrain, de pouvoir rentrer en confiance avec les gens. Le fait de travailler, déjà, ça ouvre les portes, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et moi, je suis toujours en interaction avec les personnes. Sur des projets, il y a toujours des projets. Parfois, il y a des nouveaux projets qui se greffent, comme Homo Artifex, c'est la même chose. J'ai voyagé pour un autre projet qui m'a amené à réaliser celui-ci. Et puis, pour revenir, j'ai perdu un peu le fil de la première question.
C'est un endroit qui t'a particulièrement touché.
Alors moi, tous les endroits, je suis un aventurier, j'aime bien découvrir et donc je laisse toujours une porte ouverte à la rencontre et plus que je peux aller dans un endroit qui est inaccessible, qui est difficile, plus ça me plaît. Et ça, il y en a partout, quoi, même sans aller très loin.
www.libradio.org, podcast, news, lettres et zapatisme. Rejoins la gang Écoslavie.